Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons aborder un sujet pratique. Et ça, je pense que c'est bien de pouvoir mettre en pratique ce que nous croyons et de vivre précisément, eh bien, la confession de notre foi, de le vivre réellement. Je propose, pour situer notre réflexion ce matin, de lire un court passage dans Éphésiens, donc la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Et il s'agit de deux versets que nous allons méditer, partager ensemble. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà ces deux versets qui vont nous intéressés ce matin, et particulièrement le premier. Mais vous avez remarqué que le premier verset, eh bien, est confirmé dans ses conséquences par le suivant. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et cette tristesse que nous pouvons causer au Saint-Esprit, c'est le manque de maîtrise de notre langage, de notre manière de parler. C'est lié, hein, vous avez remarqué, c'est pas lié à autre chose, ça peut être lié à autre chose naturellement, mais dans le texte, c'est bien ça. N'attristez pas le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu parce que vous avez été marqué d'un sceau. C'est une autre traduction, hein, que je cite de mémoire. Parce que vous avez été marqué d'un sceau réservé pour le jour où Dieu nous libérera complètement et définitivement du mal. Et entre autres, un mal qui est propre à notre humanité, c'est notre langue. On ne s'en aperçoit pas toujours. La langue peut frapper plus que les poings. Elle peut tuer. Et je pense que de temps en temps, il est bon de revenir dans l'Église avec ce que Pierre dit. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que cela nous est salutaire. Alors, on va voir un peu ce qu'il en retourne de tout cela. Mais permettez-moi de vous citer la version de, une autre version de la Bible, une traduction moderne qui dit ceci. Alors, vous avez devant vos yeux ce qui est écrit dans votre Bible, mais moi, écoutez bien, une traduction qui a été modernisée. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin. Pour faire ainsi le bien ou du bien à ceux qui vous entendent. Alors dans une conversation, il y a toujours celui qui parle et celui qui écoute. Peut-être que celui qui écoute va répondre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on a bien vu la composition de cette phrase. C'est qu'il y a quatre objectifs dans ces traductions modernes. On est tous d'accord pour pas prononcer de mauvaises paroles, et pourtant nous en prononçons. Je ne parle pas des grossièretés et des vulgarités, hein, bon, naturellement, mais d'autres choses, des mauvaises paroles. Et il nous est demandé de dire seulement, à l'exclusion de toutes autres choses qui seraient inutiles, et là il est question de l'utilité. D'abord, des paroles qui sont utiles pour aider les autres, pour les édifier, pour les fortifier, pour les encourager, pour les exhorter, pour leur donner, eh bien, de la vie. et pas une tristesse. Et on les aide à quoi ? À progresser dans la foi. Quand il s'agit des frères et des sœurs de l'Église, nous allons les aider à aller en haut et non pas en bas. Quand il s'agit des gens qui sont à l'extérieur, nous allons les aider à découvrir Jésus. Bonne parole de l'Évangile. Bonne nouvelle. Et en répondant à un besoin. Parce que si on parle et que les gens vous demandent rien, ben vous avez pas, on n'a pas à s'intéresser. S'ils ne demandent rien, s'ils ne vous posent pas de questions, quelquefois on va au-devant alors qu'on tombe à côté, puisque finalement, eh bien, nous ne savons pas réellement leur état, leur situation, et que là, c'est des paroles vraiment vaines, qui répondent à un besoin, pour faire ainsi le bien à ceux qui vous écoutent. Alors, on va aller un peu plus loin. Vous avez remarqué quatre objectifs dans la proposition de cette traduction donc que nous avons devant les yeux. Il faut jamais oublier que nous pouvons jeter le trouble. Je commence comme ça parce que ça va être positif après. Que nous pouvons jeter le trouble, voire peut-être le désarroi dans un cœur. Ça peut arriver. Et malheureusement, ça se passe pas seulement à l'extérieur de l'Église, ça peut se passer dans l'Église. Par des propos que je qualifierais d'irréfléchis, en pensant connaître certaines choses alors que nous ne les connaissons pas. Et que nous allons peut-être d'une manière péremptoire de dire des choses qui sont absolument pas, non seulement à dire, mais qui ne sont pas dans le cadre, ou qui correspondent à ce qui pourrait être attendu. Et dans, pardonnez-moi l'expression, mais dans la panoplie, des lois morales, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le livre des Exodes, le livre de l'Exode, trois chapitres après les 10 commandements, au chapitre 23, les 10 commandements c'est chapitre 20, il nous est dit, tu ne répondras pas de faux bruits, c'est-à-dire de mauvaises paroles. Les choses que t'entends, tu les colportes, etc., etc. Puis vous savez comment ça s'appelle, hein, dans notre langage, ce sont des rumeurs. Et les rumeurs, c'est toujours délétère. Et à coup sûr, la rumeur peut tuer. Alors, elle va peut-être pas faire mourir physiquement, mais il y a des gens qui s'en sont jamais relevés. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous dit, par exemple, autour de ces vertus morales, de ces lois morales, eh bien, c'est l'apôtre Jacques qui nous dit ceci, parce que c'est intéressant. Je cite, hein, mais vous pouvez repérer les références. Dans Jacques, chapitre 1, verset 26, il est dit cette parole, « Si quelqu'un croit être religieux, je dirais, si quelqu'un croit être spirituel, ou un bon chrétien, alors s'il croit être spirituel, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur parce qu'il se trompe lui-même, en pensant qu'il a raison. Eh bien, je vous dirais que la foi, la piété, la religion de cet homme est vaine. Ben oui, ça sert à rien. On peut faire beaucoup de choses. Mais si véritablement nous n'avons pas la maîtrise ou cette tempérance du langage, alors vous pouvez vous dire que il manque quelque chose d'essentiel à notre vie. Il manque beaucoup de choses. Parce que ça, c'est quand même écrit noir sur blanc, me semble-t-il, et compréhensible. Cette foi, cette religion, eh bien, est vaine. Elle est complètement caduque. Et puis, si nous restons sur le domaine de la piété de notre vie, alors à ce moment-là, comment se fait-il que notre religion ou notre piété, eh bien, puisse avoir finalement deux aspects. Soit nous sommes chrétiens ou nous ne le sommes pas. Et à ce moment-là, ça se vérifiera finalement, eh bien, dans la manière dont nous serons et nous aurons la sagesse de tenir notre langue. Et comment se fait-il que le même Jacques écrit ces choses, peut-être soulignant justement cette religion illusoire ou cette foi illusoire lorsqu'il dit ceci, par notre langue. Nous bénissons le Seigneur, notre Père. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure, dans la louange. Et par elle, nous maudissons les hommes. Alors, on va peut-être pas être aussi excessif, mais nous disons des choses qu'il ne faudrait pas dire. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, parce que nous avons quand même cette ressemblance morale avec notre Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ce sont des mots très forts, hein, naturellement, mais ils sont dits quand même. Il ne faut pas, mes frères, dit Jacques, qu'il en soit ainsi. Parce que la source, et c'est une question de logique, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Quand il nous est dit « Abstenez-vous de toute parole mauvaise », est-ce qu'il pourrait sortir de ma bouche des bonnes paroles et des paroles mauvaises? Nous sommes exhortés à avoir à tout ce qui peut servir à aider les autres, à l'édification des autres. Alors, l'eau douce, l'eau amère. Et il prend une autre image. Il dit, mais un figuier peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. C'est une logique, c'est une question d'intelligence. Et s'il y a quelque chose que nous avons demandé tous les jours, franchement, mes frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de demander à Dieu qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse de son esprit. Que de mal, que de dévastation, que de pleurs, que de chagrin, que de tristesse, que de frères ou des sœurs dans le contexte de l'Église ont quitté le milieu familial spirituel. Alors peut-être qu'ils avaient une trop grande sensibilité ou de la susceptibilité, c'est possible, parce que nous avons tous quelque chose. Mais quand nous sommes exhortés à avoir de bonnes paroles, qui aident, qui contribuent à faire progresser la foi dans l'Église, eh bien c'est ça dont il est question. Alors, dans la catégorie des mauvaises paroles, on va essayer de poser des limites, pour essayer de, dans notre esprit, de savoir, là, quelquefois, parce qu'il y en a franchement des mauvaises, et puis il y en a d'autres, je vais en parler ce matin, qui sont des paroles irréfléchies. Elles n'ont pas l'intention de faire du mal, mais elles font du mal quand même. Et là, c'est pour cela que nous avons besoin de demander la sagesse de Dieu. Alors donc, dans ces mauvaises paroles, il y a franchement le parler malveillant, où là, il y a toutes sortes de choses, telles que les faux bruits dont nous avons parlé, et il y a une graduation dans tout ça que je rappellerai pour mémoire, simplement, hein. Et j'espère que ça n'existe pas dans l'Église. Et là, ça peut exister dans certaines situations. Et je crois que toutes les églises sont passées par là un moment ou un autre. Quand une église a quelques années, quelques décennies, eh bien, quelquefois il y a eu des vents et des tempêtes. Et il y a une chose qui n'a pas été maîtrisée, c'est la langue. Parce que les choses auraient pu se passer différemment. Mais c'est ainsi. Alors on apprend. Et je pense qu'à Saint-Nazaire, on a appris beaucoup de choses aussi. De par l'histoire. De par des expériences. Et que franchement, on n'a pas envie de revenir à certaines périodes et à certaines époques. Parce que je crois que le Seigneur veut que l'Église soit en paix, qu'elle soit unie, c'est ainsi qu'il va la bénir. Et ça dépend de la responsabilité de chacun. Alors, il y a d'abord, dans un premier temps, ce qui passe, quelquefois sans s'en apercevoir, c'est la médisance. Je vais définir un peu les mots, ça va nous donner une petite idée. La médisance, si vous regardez un dictionnaire, c'est dire des choses vraies, ce n'est pas faux, qui existent, des choses vraies, dans le but, néanmoins, de les diriger pour qu'elles portent atteinte et qu'elles nuisent à quelqu'un. C'est vrai. Mais, derrière, il y a toujours cette idée de dire, eh bien, écoute, il va voir de quel bois je me chauffe. Il va voir un petit peu ce que ça veut dire. C'est un péché, hein? D'accord? Parce qu'on parle de grand péché, mais il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, hein? Il y a le péché, tout simplement. Après, il y a un autre stade, c'est la calomnie. Alors, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas au milieu des chrétiens. C'est-à-dire, c'est dire des choses graves, volontairement mensongères. Elles sont détournées de leur contexte. Elles sont exploitées, elles sont reprises en sous-main, et à ce moment-là, eh bien, c'est pas seulement un coup de feu, mais c'est une mitraillette, c'est un canon. Il y a encore une autre dimension, c'est la diffamation. La diffamation, c'est salir la réputation. Alors c'est volontaire, hein, là il y a pas de, là on peut pas dire que je ne savais pas. Parce que là quand on arrive encore à la médisance, bon, on fait des choses bêtement. Mais là, dans les deux derniers, c'est-à-dire la calomnie et la diffamation, on sait très bien. Hein. C'est salir la réputation et chercher à porter atteinte à l'honneur de quelqu'un. Et puis, dans le menu détail, il y a les critiques. Alors, il y a deux sortes de critiques. Il y a critique positive, il y a critique négative. Faisons attention de faire la différence, parce que quelquefois, on est souvent à critiquer... Et on se dit, bah oui, mais ça va l'aider, si c'est positif, oui. Mais quelquefois, ce n'est pas toujours positif, parce qu'en voulant aider certaines personnes, dans certaines critiques, eh bien, ce n'est pas positif. Et ça, faut faire la différence. Et ça, faut l'apprendre. C'est une école, l'Église, hein. Et les enseignements que nous avons, c'est aussi un cours de vie. Porter atteinte, donc, à l'honneur, la critique et le dénigrement gratuit. Il se peut que quelquefois dans notre vie ancienne, sans que nous nous apercevions en fonction de notre éducation, en fonction des circonstances, en fonction d'une tendance naturelle que nous avons, eh bien, il y ait eu un fond en nous-mêmes où nous étions portés à la critique négative et au dénigrement de tout ce qui se passe, des choses et des hommes, des êtres. Mais avec la conversion, ça doit être repris en sous-main par le Saint-Esprit. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, moi je critique, moi je dénigre, mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas possible. » C'est qu'ils n'ont pas pris conscience, vous comprenez. Le Saint-Esprit n'est pas parvenu à leur montrer véritablement le point où ils avaient besoin de changer. Et ils sont encore tout étonnés en disant « Mais je critique pas, voilà, ceci et cela. » Et ça se mesure toujours aux fruits, hein, vous avez bien compris. Quand il est parlé du figuier et de la vigne, hein, un figuier qui produit des raisins, et puis le contraire, hein, ben c'est le fruit qui se constate, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Alors nous allons, si vous le voulez bien, considérer successivement plusieurs attitudes, que je reprendrai quelque peu par le détail. Simplement. D'abord le mal, donc le fruit, le résultat que produit les propos mauvais, méchant. Et en deuxième temps, nous verrons les personnes qui sont enclines à parler à tort et à travers, soit d'une manière franchement malveillante, à travers des intrigues, à travers des cancans, à travers toutes sortes de choses. Bon, premièrement, le fruit, les résultats. Et puis la deuxième chose, ceux qui sont peut-être plus enclins, finalement, à aller un petit peu dans ce sens. Vous avez remarqué avec moi, je le répète, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Paul est affirmatif, il n'est pas excessif. Il est véritablement, eh bien là, dans cette, il pose le cadre d'un chrétien qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, il y en aura des circonstances où il y aura tellement lieu, quelques bonnes paroles. On a appris quand on était petit de tourner notre langue 7 fois. Dans notre bouche, hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit souvent, hein. Et cela que ça puisse contribuer à l'édification naturellement. Voilà. Parmi les personnes qui sont susceptibles ou enclines, eh bien, il y a différents types d'individus. Et je parle d'une manière générale. Il y a les angoissés. Eh oui. Mais tous les angoissés ne parlent pas mal, hein. Rassurez-vous, je voudrais le dire, parce qu'il y a des angoissés, ils sont tellement angoissés qu'ils ne disent plus rien. Hein? Et puis il y a les personnes mal affermies dans la foi, ouais. Qui pensent qu'ils sont solides et qui quelque part ne sont pas solides et qui démontent les autres, qui cassent les autres. Il y a également, parmi ceux qui sont tendance à aller un petit peu dans ce courant, il y a les jaloux et les frustrés. Oh. Alors la jalousie, ça fait parler, hein? Ouais, il a ceci, moi je l'ai pas. Seigneur, tu m'as pas béni comme lui, c'est pas possible. Ah. Il y a les désœuvrés et les oisifs qui n'ont que ça à faire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Alors il se dit, bah tiens, je vais aller me promener, je vais faire le tour de la terre pour voir ce qui s'y passe. Voilà. Les oisifs curieux. La curiosité est un vilain défaut. D'accord? Soyons curieux des choses qui font du bien, qui édifient, et ne soyons pas curieux des ragots et de toutes sortes de choses. Parce que c'est malsain, et vous allez voir. Il y a également, parmi ceux qui sont enclins à quelque part dire des choses qui ne sont pas toujours très bonnes, ce que j'appellerais les normatifs ou les légalistes. Ah, c'était le cas des pharisiens. Il n'y en a pas eu beaucoup des pharisiens qui faisaient des compliments à Jésus. Hein. « Seigneur, tu fais des miracles extraordinaires !» S'il y en a eu un, il s'appelait Nicodème. « Alors tu viens certainement de Dieu. » Mais les autres, je peux vous dire que... « Ouais, vous rendez compte ?» C'est terrible, il mange là avec des gens de mauvaise vie. Regardez cette femme qui a enlevé ses cheveux pour essuyer de ses larmes les pieds de Jésus. Ah, s'il savait de quelle espèce est cette femme, il ne se serait pas touché, vous comprenez? Continuellement, c'est comme ça. Et je suis sûr que Simon le pharisien, il pensait pas dire des mauvaises paroles. Sa conscience lui disait, moi, monsieur le pharisien, je suis au-dessus des autres, je suis au-dessus du panier, je peux bien me permettre de juger quand même, non? Donc les normatifs et les légalistes qui murmurent sans cesse, c'est des gens qui se plaignent en permanence, rien ne leur convient, et qui veulent, figurez-vous, aligner, excusez-moi le terme, sur ce que eux croient et pensent tous les autres, et s'ils s'occupent des affaires qu'ils ne regardent pas. On va reprendre les choses. Quelles sont les personnes les plus aptes à répandre des mauvaises paroles? Alors, on l'a dit, il faut pas que ça existe ici. Ce sont d'abord les personnes malveillantes au cœur méchant. J'espère que notre cœur ne peut pas aller dans ce sens. Normalement, nous sommes régénérés, mes frères et sœurs. Alors, les personnes de ces dispositions malveillantes et au cœur méchant. Nous trouvons la réponse dans la bouche même de Jésus en raison des propos malveillants que les pharisiens faisaient courir sur sa propre personne. C'est un texte que nous avons médité par le détail il y a à peu près un mois, quand il disait « Regardez Jésus, regardez cet homme qui chasse les démons par Belzébul. » Vous ne croyez pas que c'était bienveillant ça? Faire l'égal ou le collaborateur ou le complice du diable, Jésus. Alors qu'il faisait une œuvre formidable, c'était une œuvre de guérison et de délivrance d'un homme qui était sourd et muet, si ma mémoire est fidèle. Mais Jésus va aller très loin avec les pharisiens. Parce que là, franchement, ils ont le cœur mauvais. Hein. Ils ont un cœur méchant. Jésus répétera dans d'autres une autre occasion, il dira, mais... Alors, ne soyez pas choqués de la réponse de Jésus. Race de vipère. Ça persifle, comprenez? C'est sournois, c'est terrible. Il leur dira, mais comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? C'est aux pharisiens qu'il dit, hein. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ma bouche est ce qu'il y a dans mon cœur. Ce que je vais pouvoir dire, c'est parce que ça existe à l'intérieur de moi-même. Et ce qui va sortir, c'est l'expression de ce qui est caché, mais qui ne va pas rester caché, mais qui va sortir par, eh bien, mes propos. Ça, on le voit, Jésus a répondu à cette question, et faisons attention. Remarquez, je vous dirais que quand ça existe dans une église, je peux vous dire que ces gens-là ne restent pas longtemps au milieu du peuple de Dieu. C'est pas parce que le pasteur le met à la porte, hein, parce que moi j'ai mis des personnes à la porte. Ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils voulaient partir, ou ils se sont trouvés désavoués. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut pas se maintenir dans cette affaire-là. Donc je veux croire que ça n'existe pas dans l'Église. Ou si ça existait, ça existe que petit à petit, et moi je bénis la maturité des enfants de Dieu qui, à un moment donné, entendant certaines choses de méchanceté, eh bien, se détournent. Puis la personne, à un moment donné, elle se retrouve isolée, puis elle s'en va. C'est une saine attitude que nous pouvons avoir dans l'Église, hein. Alors les personnes angoissées, je vous répète que toutes les gens qui font de l'angoisse ne sont pas forcément des gens qui parlent mal. selon un psychologue qui a étudié la question et qui déclare ceci, que les meilleurs agents des rumeurs, des mauvaises paroles, des cancans et tout ça, sont les personnes, c'est vrai, qui sont un petit peu fragilisées quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes. Où le Saint-Esprit, eh bien, n'a peut-être pas pris toute sa place, et ils sont prêts à croire toute information vraie ou fausse, parce que l'impression de savoir les rassure, et elles font ensuite fonction de relais. Pour ceux qui ont connu ces états de fragilité psychologique, on répète souvent, quand on est dans cette condition, on répète souvent les mêmes choses, vous comprenez. On a besoin d'être rassuré en permanence. Ça, on le sait. Mais on n'a pas à juger nos frères dans cet état. On a à les aider et les rassurer, vous comprenez. Et surtout pas leur donner de mauvaises nouvelles. Parce que là, à ce moment-là, c'est pas eux qui donnent des mauvaises, qui vont dire des mauvaises paroles. C'est nous qui leur avons apporté des mauvaises paroles et on va les casser. Faut être très prudent avec les gens qui, psychologiquement, sont en fragilité, vous comprenez. Du genre, tu fais de la dépression, bah, secoue-toi, hein, c'est que t'as pas la foi. Alors moi, je n'accepte pas ça. Et je suis formel parce que j'ai passé plusieurs fois la dépression. Et je peux vous dire que si vous voulez tuer quelqu'un, et que vous voulez enfoncer dans l'abîme quelqu'un qui fait de la dépression, ne lui dites jamais ces paroles. Je vous en supplie, frères et sœurs. Ça fait un mal terrible. Je suis formel, hein. Et je ne parle pas parce que je l'ai appris, comme ça dans les livres. Quelquefois, nous ne mesurons pas toujours la gravité des paroles que nous disons. Alors, on revient à ces paroles qui sont fragilisées un petit peu. Et parce qu'elles prennent nouvelles et elles se rassurent elles-mêmes. Regardez ce que dit Job. Vous savez que Job, il est passé par des moments de déprime, hein, quelquefois. Hein, et il avait de quoi, hein. Terrible. Il dit, je parlerai dans mon angoisse. Dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Eh oui, quelquefois. Parce que nous ne sommes pas bien, eh bien nous disons des mauvaises paroles. Parce que nous ne sommes pas bien. Et puis une fois qu'on est sorti de la dépression, eh bien à ce moment-là, on demande pardon au Seigneur et le Seigneur va nous pardonner. Parce que c'est dans notre souffrance que nous disons des choses. Et nous, il faut être capable de pardonner aussi quelquefois de certains qui ont passé par des moments difficiles et qui nous ont dit des choses qui étaient difficiles et de pouvoir leur pardonner parce qu'ils n'étaient pas dans leur état normal. Faut passer sur les choses. Hein. Parce que vous savez, c'est le même Job qui écrira un peu plus loin. Il dit, garde-toi de te livrer au mal, par la bouche entre autres, hein, car la souffrance t'y prédispose. Ouais. Parce que quelquefois, on n'est tellement pas bien dans notre monde, dans notre corps, dans notre âme, dans notre tête. Hein. Alors, on dit pas toujours des belles choses. Il y a les personnes jalouses et frustrées. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bon, on a parlé de la souffrance psychologique, physique. Ne te livre pas à la souffrance parce que le mal te prédispose. Mais là, c'est encore une autre dimension. Dans les livres des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 8, il est dit « Les paroles du rapporteur ». C'est pas le rapporteur de l'Assemblée nationale. Hein. Mais c'est « rapporteur ». Vous savez, c'est un mot qu'on entend moins là. T'as un rapporteur. Vous savez, les enfants. Ah, le rapporteur! Nia, nia, nia. Hein? Ben, j'essaie de donner un peu de... Je voudrais pas vous attrister ce matin. Alors, écoutez bien. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Vous aimez la gourmandise? Le sucré? C'est formidable. Eh, vous connaissez pas la nouvelle? Vous savez, cette semaine, j'ai appris quelque chose, hein, sur un tel, c'est formidable. Surtout, je vous le dis, mais vous ne le répéterez pas. Oh non, non, il n'y a aucun problème. Puis je peux vous dire qu'en deux temps de mouvement, ça va plus vite que l'Internet. Hein. Des friandises, c'est bon, c'est terrible, bonbon. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, vous vous rendez compte? Et ça va pas rester dans le fond des entrailles. Ça va ressortir aussitôt. Ce verset de Proverbe 18 nous dépeint l'attrait qu'ont les paroles négatives, des paroles mauvaises, des paroles malveillantes, dans la généralité, sur certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas les cancans et qui vont dire « arrêtez, bon c'est bon » ou alors vous tournez le dos et puis vous partez. Mais il y en a d'autres qui vont s'arrêter, qui vont dire « racontez-moi encore, dites-moi encore, vous n'avez rien d'autre à me dire ?» Formidable. Ah, ce que vous me dites, c'est... Elle prête l'oreille complaisante parce qu'elle nourrisse à l'égard de certaines personnes de l'antipathie, des préjugés, de la jalousie, voire de la convoitise de ce que sont ou ont les autres personnes et qu'elles n'ont pas. Parce qu'elles vivent en frustration permanente, où elles croient, finalement, eh bien, là, être défavorisées dans la distribution, en disant, mais Dieu, t'es pas juste. Comment ça se fait que ça se passe pour l'autre et pas pour moi? Parce que vous savez, on entend ce qu'on veut bien entendre. On croit que ce que l'on veut bien croire, c'était l'histoire de cette population qui habitait Athènes, qui nous est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres, ou qui passait, il y avait une période de chômage à l'époque, hein. Ils ont encore les pauvres Grecs, hein. Mais où on passait tout son temps, nous rapporte l'évangéliste Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, eh bien tout simplement, si je reprends les choses, ils passaient leur temps à dire, à écouter des nouvelles. France Info 24 heures sur 24, BFM Télé, iTélé et tout cela. Vous savez, des infos en boucle comme ça, ça revient continuellement. Eh bien, c'est comme ça que ça se passait. Puis je peux vous dire qu'il y avait une ambiance. Il y avait une certaine mentalité, une certaine philosophie à Athènes à l'époque. Hein. Et on vivait qu'avec des choses comme ça. Et quand l'évangile est arrivé avec l'apôtre Paul, on n'a même pas voulu le croire, ça n'intéressait personne. Parce que ça manquait de croustillant. Dieu si pourtant, c'était quand même la bonne nouvelle qui sauve les hommes. Hein. À force de s'intoxiquer avec des choses qui sont mauvaises, on finit par aimer ces choses mauvaises et on ne s'intéresse plus aux bonnes choses. C'est notre société d'aujourd'hui. Hein. Si ça croustille pas, si c'est pas explosif, ça n'intéresse plus personne. Alors faisons attention à l'état de nos âmes, parce que si on finit par se nourrir qu'avec des déchets, avec des scandales, avec des choses qui sentent mauvais, sulfureuses, on saura plus ce qu'est le bien à ce moment-là. Et c'est terrible. Et on pourrait parler de décadence. De décadence. Il y a un cas dans la Bible par rapport à les mauvaises paroles dites par des personnes jalouses et frustrées. Vous connaissez Myriam? Pas mon épouse naturellement. Myriam de la Bible. Elle avait un frère qui s'appelait Aaron. Ils s'étaient bien entendus tous les deux. Et elle avait un autre frère qui s'appelait Moïse. Alors écoutez, simplement c'est dans le livre des nombres. Écoutez, il est dit, Marie, Myriam, et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il avait quand même le droit de se marier avec qui il voulait, hein. Alors ils ont dit tous les deux, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi pour nous ou par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Vous savez, quand on dit des mauvaises paroles, consciemment ou inconsciemment, le Seigneur l'entend aussi. Hein, ouais. Ça peut peut-être nous faire réfléchir. Quelquefois, on était trop loin dans ce que l'on a dit, on était exagéré, on était excessif. Puis le Saint-Esprit nous reprend. Après avoir dit les choses, aussitôt ou un petit peu plus tard, en disant « Non, j'ai peut-être été un peu trop fort là. » Là, il y a peut-être quelque chose. Enfin, c'est parce que le Seigneur l'a entendu. Et après, par le Saint-Esprit qui est en vous, parce qu'il demeure quand même en vous, le Saint-Esprit. Hein, on commence à avoir des battements de cœur. Et on se dit « Ouais, peut-être que j'ai peut-être été un peu fort. Hein. » Parce qu'il y a deux problèmes dans l'histoire. Il nous est dit qu'ils ont parlé au sujet de... Mais le vrai problème, c'était pas parce que Moïse avait une femme éthiopienne, c'est parce qu'ils étaient jaloux de Moïse, parce que Moïse avait reçu le don du miracle et du surnaturel, et ils se disent, mais il parle aussi par nous, hein. On est là, on existe. C'est ce qui a fait justement le grand problème. Et ils ont mal parlé. Et c'était quand même dommage, parce que pour un homme comme Aaron, qui était quand même le grand sacrificateur, premier grand sacrificateur d'Israël, de se livrer à de telles sottises, on pourrait dire. Quand les mauvaises paroles, les faux bruits, les rumeurs proviennent du monde ou encore de ceux que l'apôtre appelle des faux frères, nous ne devons pas nous en étonner ni nous en offusquer. faut pas faire toute une histoire. On sait qu'il parle mal, il parle mal. Et puis bon, à un moment donné, les choses se régleront. Et Dieu le demandait déjà à son peuple en Israël par la bouche du prophète Jérémie. Et il est dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, c'est dans Jérémie ça, ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront de le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre. Alors n'allez pas vous affoler. N'allez pas vous affoler avec cause de ça. Mais par contre, Jésus réclame la même chose à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, quand il est dit ceci, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement les phénomènes militaires et puis voilà de nationaux, d'affrontements, etc., etc. Mais tout ce monde de conflits dans lequel on est. Toutes ces choses qui viennent nous frapper d'une manière ou d'une autre. Alors on en a entendu, mais on va en entendre encore. On va en entendre encore. Et si ce qui vient de l'extérieur, nous ne devons pas nous effrayer parce que finalement le Seigneur est maître et souverain. Faut pas en faire toute une histoire, une montagne. Par contre, nous devons nous en inquiéter quand les faux bruits, les mauvaises paroles sont propagées dedans dans l'Église. L'extérieur, c'est une chose, mais dans l'Église, c'est autre chose. Surtout quand ces propos sont tenus par d'authentiques chrétiens qui ne mesurent pas ce qu'ils disent et qui se laissent manipuler par l'adversaire. Parce que le problème, il y a le cœur naturel de l'homme, mais il y en a un qui nous connaît bien. Et il nous dit, tiens, tu sais, tu veux être saint? Tu veux être un saint? Tu veux être spirituel? Ben moi, tu vois, j'ai vu quelque chose qui peut être exploité dans ta vie. Et faisons attention de ne pas tomber dans le piège. L'adversaire de l'Église. Et n'oublions jamais que l'instigateur de toutes ces choses, c'est Satan. Et moi, je voudrais vous prévenir parce que j'ai à cœur de vous le dire. Nous sommes à rentrer dans une nouvelle dimension dans l'Église. Je pense à Redon en particulier. Mais je m'adresse à Saint-Nazaire. Mais bon, ça concerne l'Église en général. Et vous savez, dans l'investissement qui va être fait et l'engagement qui va être pris, et nous le sentons par différents petits pincements de temps en temps, le diable va essayer de casser le projet. Ouais, d'une façon ou d'une autre. On a conquis ensemble la paix et l'unité de l'Église après des combats et des luttes, n'est-ce pas? On s'en souvient encore. Moi, je crois qu'il va y avoir une nouvelle étape. Quand on voit actuellement la condition spirituelle de Redon, nous, vraiment, nous sommes émerveillés de ce que le Seigneur fait actuellement. On va passer dans une nouvelle étape, mes frères et sœurs. Et je crois, et vous savez, Saint-Nazaire fera la même chose. On va pas changer de salle. Parce qu'on peut toujours dire, bah oui, il y a des chaises vides, il y a des chaises vides. C'est vrai, je le constate comme vous. Mais moi, je ne vais pas me rendre malade parce qu'il y a des chaises vides. Je regarde au Seigneur qui, lui, peut les remplir. Et je pense que le diable essaie de nous occuper en disant, mais regarde, parce que quand on a connu Redon il y a quelques années où on n'était plus que 7-8 dans les réunions de culte et puis encore moins dans les réunions de prière, quand on voit qu'aujourd'hui c'est plein, qu'on est à deux pas de franchir pour rentrer dans une nouvelle église, bientôt ça sera le tour de Saint-Nazaire aussi. Vous verrez. Parce que si il faut avoir une vision quand même, hein. Mais le but du diable, c'est de casser le processus avant. Hein. Vous savez, notre frère ce matin, tu as bien dit, Michel, il a eu à cœur, j'ai formé sur vous des projets de paix et de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Mais ça, le diable, il ne l'entend pas de la même oreille. Hein. Et je peux vous dire que s'il peut mettre en pièce, parce que le diable est passé maître pour diviser l'Église dans l'art des cancans, des faux bruits, de toutes sortes de paroles blessantes et des paroles qui jugent aussi. Et là, ça fusille. Moi, je vous en supplie, mes frères et sœurs. Il va falloir faire attention dans ces choses qui semblent anodines, parler. Ben oui, mais ce qu'on a connu il y a quelques années, c'est venu aussi par la parole, hein. Pas la parole de Dieu, hein, la parole des hommes. Et je crois qu'il va falloir faire attention à tout cela, parce que s'il y a une chose qui est importante pour vraiment aller plus loin, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Je lui donnerai un mot plus fort encore, c'est l'amour entre nous. L'amour des enfants de Dieu les uns et les autres. Et ça, c'est précieux. Parce qu'on ne construira jamais, on ne pourra jamais édifier quelque chose, même matériel, et aller plus loin, voir l'évangile en quantité et en qualité se développer, si nous sommes divisés par justement toutes sortes de choses qui traînent dans les fonds de couloir. Je ne veux pas dire que c'est le cas aujourd'hui, mais moi je vous préviens, c'est une prévention. Hein. Faisons attention à cette tendance, parce que quand on s'aime les uns et les autres, c'est une preuve de maturité spirituelle. Et ça, c'est quelque chose que je veux voir. La maturité spirituelle. Homme mûr à juger ce qui est bien de ce qui est mal et à faire le tri. Garder ce qui est bien, rejeter ce qui est mal. Parce que quelquefois, des enfants de Dieu se sont désavoués tout en passant pour spirituels et qui ne l'étaient pas à cause de leurs propos. Tout simplement. Alors, je dis bien que c'est le diable adversaire. Il lance des bruits, fondés ou non, ce qui lui permet de déstabiliser, eh bien, les enfants de Dieu, en suscitant de la crainte et de la frayeur que cela provoque. Et à ce moment-là, quand on est occupé, quand on a mis le fer à un feu qui détruit, ben, finalement, on peut pas faire autre chose. Et l'apôtre faisait appel au discernement des chrétiens de Corinthe, ainsi qu'à l'esprit de leur miséricorde, parce qu'il faut les deux. On peut avoir du discernement, être implacable, cassant, etc. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Des choses qui ne vont pas dans l'Église, il y en aura toujours. Mais il faut le voir avec les yeux de la miséricorde et de la compassion de Dieu. On n'est pas Dieu. On n'est seulement que des enfants de Dieu graciés. Et ça devrait nous donner des sentiments peut-être un petit peu plus modeste. Ne laissons pas, dit l'apôtre Paul, l'avantage sur Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est les mauvaises paroles que génère la curiosité de la vie des autres, fruit du désœuvrement et de l'oisiveté. Je vous pose une question, est-ce qu'on a pas suffisamment à faire avec nos propres problèmes. On a de quoi s'occuper, non? Dans Timothée, je vais faire, le temps passe et je ne veux pas faire le commentaire, mais dans Timothée, 1 Timothée chapitre 6, il est dit cette parole, et au verset 3 à 5, voilà. Bon, premier verset, c'est pour l'introduction. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ni des mauvaises paroles, enfin, on peut lui donner cette signification, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit d'avoir des paroles bonnes, enfin, on pourrait le dire, qui est selon la piété, alors il nous est dit qu'il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies. Les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, se croyant que la piété est une source de gain. Il y va franco, hein, l'apôtre Paul. Il fait pas de détails, hein, il est en train de donner faire une ordonnance, le diagnostic, mais alors, vraiment. Puis dans 1 Timothée chapitre 5, et au verset 13 à 15, il est dit ceci. En parlant, bon, de certaines situations qu'il trouvait dans l'église, hein, qui était, bon, voilà, c'est stigmatisé pour les femmes, mais vous savez, les hommes, ils parlent quelquefois aussi, ils sont capables de parler aussi mal, hein. Bon, mesdames, ne m'en voulez pas, ne me faites pas de mal à la sortie, je préfère le dire avant. Avec cela, étant oisives, et oisif, je le mets au masculin, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Il nous faut de la sagesse dans nos rapports les uns avec les autres. Dans la Bible, il nous est dit, ne va pas trop souvent chez ton frère, de peur qu'il ne te vomisse, et que toi tu fasses de même. Il nous faut être sages. Il y a eu quelquefois tellement d'excès, où les choses, au lieu de rester dans une condition spirituelle, sont devenues vraiment charnelles et humaines, à cause de Et puis là, ben, on parle. Et on dit pas que de belles choses. Ouais. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Et puis, il y avait cet aspect des choses que j'avais mentionnées devant vous. Il y a les affairistes, ceux qui sont là à faire des affaires. Les affairistes qui sont sous le couvert de rendre service ou d'aider les autres, s'occupent de ce qui ne les concerne pas et ne les regarde pas. Il faut apprendre, frères et sœurs, à donner des limites à toute chose. Et il faut quelquefois dire à des gens qui, bon, veulent nous informer de ceci et cela, si c'est pour aller dans le bon sens et d'une manière positive, d'accord. Mais quelquefois, bah nous on est bien placés en tant que pasteurs pour, on voudrait vous raconter, vous savez. Et il y a des fois, moi je l'ai dit, hein, j'ai dit écoutez, hein, souvent ce sont des affaires qui concernent même pas l'Église. Alors bon, ça vient d'ailleurs et tout ça. Je lui dis, écoutez, franchement, je veux bien vous écouter si ça vous fait du bien de parler, mais il y a des choses qui ne m'intéressent pas et qui ne me concernent pas. Alors, faites-moi grâce, j'ai pas envie de les entendre. Quelquefois, il ne faut pas avoir d'appétit pour certaines choses qui sont... Il n'y a rien à dire. Hein? Parce qu'on se fait du mal soi-même. Oh, j'ai entendu cela et tout ça, et quelquefois, ça fait du mal. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 11, il est dit ceci. « Nous vous exhortons à abonder toujours plus dans l'amour. » Et vous savez que l'amour, il est réservé. L'amour, il est respectueux. Et l'amour, il a du tact. Il est poli. Ouais, ça c'est les qualités. Et il nous est dit « À abonder toujours de plus en plus et à mettre votre honneur, parce que c'est notre honneur qui est en jeu, à vous occuper de vos propres affaires. » On a suffisamment de choses à faire les uns et les autres. Mais il y a des gens qui, ils sont toujours en train de gratter de droite et de gauche pour occuper leur temps, occuper leur vie. Il y a des choses qui sont souillées, on n'a pas envie de se souiller. On peut prier, oui, oui. Quand on entend des choses qui ne sont pas belles, puis qu'on voit qu'il y en a qui dérapent, mais écoutez, le mieux c'est d'en parler au Seigneur avec miséricorde. Et avec amour, vous trouvez pas? Parce que lui, il peut tout entendre, le Seigneur. Quel que soit l'objet ou le sujet de nos interventions, soyons circonspects et montrons que nous sommes spirituels. Au lieu de se précipiter en réflexion blessante, parce que ça arrive quelquefois, c'est tellement, wow. Au lieu de se répandre en affirmations péremptoires et autres conseils inadéquats à la réalité de la vie des autres, parce qu'on ne connaît pas tout dans la vie des autres, et qu'on va y aller à l'emporte-pièce, et qu'on va dire des choses qui ne correspondent pas du tout, c'est pas la réalité. Alors ne vaut-il pas mieux, avant de dire quelque chose, d'abord d'écouter les personnes, de ce que l'autre a à dire, ses raisons, son histoire? Et après, peut-être qu'on pourra répondre. Mais quelquefois, on y voit franco et on dit des choses qu'on ne devrait pas dire parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissements de la situation. Et c'est dommage. Veillons à ne pas nous aviser intempestivement ou arbitrairement à dire ce que nous croyons être le bien ou le mal, ce que nous croyons être bon ou mauvais pour celui qui nous écoute. Est-ce que nous avons le monopole du jugement de ce qui est bien et de ce qui est mal? Déjà, nous avons du mal à y voir clair déjà nous-mêmes dans notre propre vie. Oh, il y a des grands classiques. Il y a des choses qui sont quand même suffisamment... Mais attention de la manière dont nous disons les choses. N'appliquons pas à notre frère ou à notre sœur nos normes personnelles en redresseur de tort, parce que la volonté divine... Elle est pour tout le monde, elle est universelle, et on va pas discuter là-dessus. Mais moi, je sais que la volonté de Dieu, elle s'adapte quelquefois, souvent, à chaque situation, et laissons à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Et n'allons pas contrarier le plan de Dieu de redressement d'une situation qui est tordue, parce que nous avons dit des choses et nous avons apporté peut-être le trouble. Parce que sinon, le résultat, au lieu d'encourager, nous allons troubler et confondre. Souvenons-nous et revenons à ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, une bénédiction, et pas le contraire. Je voudrais vous dire que le moralisme chez un enfant de Dieu n'a pas cours. Ouais, nous ne sommes pas des moralistes. L'évangile, c'est pas une morale, ça l'est peut-être pour les religieux, mais c'est beaucoup plus que cela. L'évangile, c'est une puissance de vie et une manifestation de l'amour de Dieu, et pas des gna gna et ceci et cela. Nous avons besoin d'être défaits de ce moralisme. Ça, c'est le fort des religions, mais nous n'appartenons pas à une religion, nous appartenons à Jésus-Christ. Et regardez la manière dont Jésus a traité certains problèmes, voire même scandaleux, avec des gens qui n'avaient pas forcément une vie très droite et très pure et très saine. Ben vous avez vu comment il est venu pour les sauver. Il est venu sauver et guérir ceux qui étaient perdus et guérir les malades. Parce que les autres, ils n'ont pas besoin de médecins. Le mot exhortation, il les a dit, nous vous exhortons à abonder dans l'amour en vous occupant chacun de vos propres affaires. Mais quand il est question d'exhortation, faut pas se méprendre sur le mot d'exhortation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond et dans sa forme, vous avez raison dans le fond. Je veux pas dire le contraire, mais de la manière dont nous présentons les choses, les formes, eh bien, ça démonte finalement tout le fond. Et les gens vous écouteront jamais, ou vous allez les rendre malades, parce que la forme n'est pas bonne. Et nous avons besoin d'être enseignés de la manière dont nous allons approcher les solutions, et nous allons pouvoir faire en sorte d'aider les gens, mais en les élevant, en élevant le débat, et non pas l'abaissant. Et tout ça souvent avec un esprit moraliste et légaliste. Ben vous savez de quel côté je suis maintenant, hein. Vous le savez depuis 9 ans, hein. Par rapport au légalisme. Moi, j'ai été sauvé par grâce, mes frères et sœurs. On a si souvent enseigné dans l'église en martelant que c'était la loi. Mais la loi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, mes frères et sœurs. Bon. C'est un autre temps. Nous y sommes passés nous-mêmes et nous avons été guéris par le Seigneur. Et moi, je veux avoir de la compassion et non pas du jugement. Je termine. Ça va? Laissez-moi vivre encore un petit peu. Alors, question pratique. Comment arrêter les faux bruits? Je vais aller vite. D'abord, il ne faut pas se tromper d'objectif. Et pour cela, nous rappeler sans cesse ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, dixit l'apôtre Paul, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre la chair et le sang, c'est les dépravations ou l'humanité comme nous le constatons. Nous n'avons pas seulement à lutter contre ça, mais contre les autorités démoniaques, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Attention, notre adversaire, c'est pas mon frère, ma sœur, quel qu'il soit. Ce sont les puissances qui sont derrière, qui le manipulent. Et trop souvent, on a envoyé le bébé avec l'eau du bain. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le distinguo. Hop, on a jugé le péché. Certes, c'est le fond, mais on a jugé le pécheur, et comme ça, tout le monde à la porte. Faisons attention, mes frères et sœurs. Il nous faut prendre l'arme défensive et offensive de la prière. Il n'y a que la prière. Avant d'intervenir, avant de dire quelque chose, j'ai besoin de prier. Garde la porte de mes lèvres, Seigneur. Il nous faut intervenir auprès des personnes qui font circuler, finalement, des mauvaises paroles, en identifiant les craintes, les frustrations qui se cachent, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, afin de les rassurer et de les éclairer, mais de le faire avec bienveillance. C'est ce qui nous est dit plus tard. Alors, comment le faire avec bienveillance? C'est les dispositions de notre cœur qui vont nous donner d'être bienveillants. Paul dit aux Galates, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous êtes, vous qui êtes spirituel, et ça va se vérifier si on l'est ou pas, hein, redressez-le avec douceur. Et ça, c'est un fruit de l'esprit, la douceur. Comprenez? Si je ne sais pas quoi dire, eh bien, je me tais. Nous devons veiller à la transparence de l'information qui circule et également à la qualité de la communication. Ça, c'est la forme. Et je finis. Si quelqu'un croit servir Dieu, autre version, et qui ne tient pas sa langue en bride, et qui se trompe lui-même, Son service pour Dieu est illusoire, ça ne sert à rien, on revient au début, tout simplement. Alors en conclusion, il arrive que les mauvaises paroles, bruit, faux bruit, rumeur, échappent à tout contrôle. Ça s'en va et ça fait un dégât pas possible. Et dépassent des effets prévus et se retournent contre ceux qui les ont lancés. Faisons attention, parce qu'on a peut-être fait l'expérience quelque part, d'avoir été un petit peu trop hardi dans certaines choses que nous avons dites et nous les avons mal dites. Parce que bon, il y avait peut-être un esprit de vouloir régler les comptes et puis d'arbitraire, etc., etc. Et à un moment donné, on s'est aperçu que ça nous est retombé dessus. Eh bien, moi, je dis merci Seigneur parce que ce sont des leçons que nous apprenons à apprendre la tempérance dans la parole. Et je dis que c'est une grâce de Dieu quand ça nous revient. Parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et quand on a appris ces choses de la part de Dieu, on n'a plus envie de les refaire. C'est normal. On les a apprises, tout simplement. La parole de Dieu nous met en garde dans Osée, puisqu'ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Faut s'y attendre, un moment ou un autre. Ainsi, et je tire cette conclusion, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Or, souvent, vérification faite, c'est que nous sommes beaucoup plus empressés à parler qu'à écouter. Alors, on va remettre les choses en place. Seigneur, je suis à tes pieds, je t'écoute. Et puis après, si je dois dire, si je dois parler, je dirai. Parce que, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous avez vu? C'est le même texte, hein? C'est pas pour rien, hein? Il s'agit pas de vol, il s'agit pas d'autre chose dans ce péché. C'est le péché de la langue. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Un jour viendra, mes frères et sœurs, il va falloir tenir le coup. Un jour viendra où le Seigneur mettra, je l'ai dit tout à l'heure, il nous libérera définitivement de notre état de pécheur. Et nous serons, eh bien, de nouvelles créatures. Mais en attendant, faisons attention. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et en attendant ce jour de la rédemption, que notre parole soit saine, qu'elle soit sainte, qu'elle soit bonne, qu'elle contribue à l'édification, à encourager, à fortifier, à exhorter selon les formes spirituelles. Alors à ce moment-là, eh bien, vraiment, nous donnerons le témoignage de notre maturité spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que dans quelques instants, nous allons prendre la parole les uns les autres. Et nous allons prendre la parole pour te bénir. Nous allons prendre ta parole pour te louer. Nous allons prendre ta parole pour glorifier ton nom, pour t'adorer. Alors c'est vrai, Seigneur, si nous bénissons le nom de notre Dieu, nous voulons aussi être en bénédiction à nos frères et sœurs, parce que d'une source, il ne peut jaillir l'eau salée, l'eau amère, et puis avec l'eau douce. C'est pas possible. Seigneur, le repas de Sainte-Cène qui nous met devant toi maintenant, c'est de nous considérer, Seigneur, dans notre manière de parler, dans le fond et dans la forme, et de pouvoir être animé, Seigneur, comme Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire, ce que nous allons célébrer dans quelques instants, eh bien, c'est que, réellement, Seigneur, eh bien, en effet, Père éternel, ce péché-là puisse être vraiment éradiqué complètement et totalement. Et nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus, Seigneur. Si nous sommes remplis de ton amour, eh bien, nous dirons que des choses bonnes, parce que l'amour, en effet, il est parfait. Et nous te bénissons, bénis ton peuple. À la veille peut-être d'événements nouveaux, Seigneur, pour l'Église, eh bien donne-nous, Seigneur, de veiller à la manière dont nous parlons, avec des bonnes paroles qui servent à aider, à édifier, à construire, qui construit la foi de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.